Le vent soufflait si fort que la neige formait des tourbillons qui volaient à travers les montagnes. Depuis quelques heures, la tempête s'était levée brusquement et nous avait engloutis. Même Ogodei le généreux, le plus beau et le plus magnifique des Sherpas, avait cessé d'ouvrir sa grande bouche, ce qui était un exploit. Nous étions au milieu des montagnes tibétaines, à une semaine de marche de Lhasa. Le yak de Godei, Khan le triomphant, avançait lentement, ployant sous les nombreuses affaires de son maître, qui était essentiellement composé d'une yourte, quelques cheeseburgers en viande de yak et un petit tambour traditionnel. Le froid était glacial et je sentais que si nous ne trouvions pas un abri au plus vite, nous mourrions de froid. Les heures passèrent silencieuses à part le sifflement du vent. Enfin, nous finîmes par trouver une petite caverne. Il y avait juste la place pour nous loger, Ogodei, Khan le triomphant et moi. À mon grand désespoir, Ogodei recommença à parler à tort et à travers, en faisant le feu à partir de bouses de yak.
« Il fait beau, il fait jour, c'est le moment pour... Miel Pops, miam miam miam, trop bon, croum croum crouch !»
Après avoir mangé le centième de nos provisions, je commençais à me détendre. Le feu était réconfortant et j'avais bien mangé.
Et alors, vas-tu enfin m'expliquer comment tu es arrivé là?
Je m'assis confortablement et me décidai à raconter. Tout a commencé ce matin-là, dans ma ville natale, à Yakoutsk. C'était un matin comme les autres, en fin d'automne, avec les bâtiments sous la neige. Mais soudain, nous avons entendu les trompettes de l'armée. L'armée rouge est la plus puissante du monde, la plus grande et la plus terrible. Ils cherchaient quelqu'un et ils ont tué tout le monde. Mes parents voulaient fuir avec moi, mais ils n'en ont pas eu le temps. Le dernier souvenir dont je me rappelle, ce fut deux coups de feu et des cris de joie des militaires. Je m'arrêtai quelques instants pour maîtriser mes émotions. Ce n'était pas le moment de pleurer. Pour une fois, Ogodei s'était tu, étrangement, comme s'il comprenait. Mais avant de me laisser partir, mon père m'avait confié une petite boîte. Il m'avait dit que c'était quelque chose d'important qui pouvait faire basculer le monde. Il fallait que j'aille la donner au roi du Népal, qui était le seul à pouvoir agir. Alors je commençais un long voyage à travers la Sibérie, en plein hiver. Je suivis le cours de la Léna, la rivière gelée, des semaines durant jusqu'à arriver à la face nord du lac Baïkal, dans la ville de Servobalkaïsk. Là, j'ai acheté un traîneau et quelques chiens pour traverser le lac le plus vite possible. Il fallait que je me dépêche, la mission que mon père m'avait confiée était de la plus haute importance. J'ai traversé le sud de la Sibérie, puis la Mongolie durant l'hiver, à pied ou avec des animaux que les nomades voulaient bien me prêter. Puis, à l'aide de quelques habitants, j'ai réussi à passer les monts Altaï, les monts du Tian Shan et le désert du Taklamakan. Enfin, j'ai mis les longues semaines pour traverser le Tibet, et je suis arrivé à Lhasa. C'est là que je t'ai rencontré. Je me suis tu. Après quelques secondes, Ogodei a dit.
Et tu n'as pas cherché à savoir ce qu'il y avait dans la boîte que ton père t'avait donnée?
J'étais tellement heureuse de passer la fête de Loli, en plus accompagnée de mon amie Nila, nous étions en train de nous préparer.
C'est ta première Loli?
Oui, c'est mon plus grand rêve depuis toujours.
Tu vas adorer, j'en suis sûre. C'est une tradition où tout le monde se rassemble autour d'un moment joyeux.
Une fois dans la rue, je me sentais bien. Nous étions tous heureux et on se jetait des couleurs. J'avais même l'impression de faire partie de la famille de tout le monde. Cela me donnait chaud au cœur. À partir de ce moment, je fus nostalgique. Un mélange de tristesse d'avoir quitté ma famille et de doux souvenirs passés au Népal. La fête terminée, j'étais couverte de verre, symbole de nouveau départ, ce qui était maintenant une évidence. C'était l'heure de se coucher, mais j'étais en train de réfléchir à mon ancienne vie, au Népal, ce qui m'empêchait de dormir.
Ça va, Tsering? Tu n'as pas l'air bien. Tu veux en parler?
Je ne répondis rien. Le silence était puissant et bruyant. Nila comprit et se rendormit. Parfois, partager un silence est plus profond que 1000 mots.
Le coucher de soleil était magnifique. Les étoiles commençaient à étinceler dans le ciel. Nous nous étions arrêtés en haut d'un col de la haute chaîne de l'Himalaya. Comme à son habitude, Grigor avait insisté pour ne s'arrêter que lorsque nous aurions trouvé une grotte ou un abri digne de ce nom. Et je n'avais pas eu la force de répliquer. Nous étions maintenant dans une grotte gelée et encombrée de stalactites. Seul, moi et ce russe que je regrettais presque d'avoir emmené. Après la tempête, les nuages s'étaient levés lentement et un ciel bleu avait fini par éclairer le Tibet. Nous avions ainsi avancé. Finalement, si on peut avancer facilement dans les montagnes les plus hautes du monde jusqu'à aujourd'hui. Le soleil commençait déjà à descendre quand nous sommes passés par un endroit particulièrement dangereux. Le célèbre glacier du Chao-Huyo, réputé particulièrement instable. Nous avancions sur un petit chemin taillé dans la pierre à flanc de falaise quand la tragédie s'est produite. Khan le triomphant, mon magnifique kayak, avait glissé et chuté de plus de 50 mètres de haut. La grande majorité de nos affaires étaient perdues. Il allait être difficile de continuer jusqu'à Katmandou. Heureusement, j'avais prévu de prendre quelques ressources, dont nos sacs de couchage. Mais je n'y pensais pas le moins du monde en cet instant. Toutes mes pensées étaient tournées vers mon ami, qui avait glissé de la falaise. Après seulement quelques minutes, Grigor m'avait secoué et forcé à reprendre mes esprits. Là, nous étions arrivés dans cette grotte et Grigor avait réussi à allumer le réchaud, ce qui m'a beaucoup étonné venant de sa part, et à faire fondre la neige pour avoir un thé au sucre, qui constituait près de la moitié de nos maigres ressources. Grigor devait bien voir que je n'étais pas très bien parce qu'il m'a dit « Pourquoi tenais-tu tant à ce yak ?» Je n'ai pas répondu, il n'avait pas besoin de savoir. Au bout de quelques secondes, le russe s'assit plus confortablement et me dit « Il y a une semaine, je t'ai tout raconté de ma vie. » Maintenant, c'est à ton tour. Je soupirais et parlais enfin pour la première fois depuis la mort de Khan le triomphant. Je suis né à Lhasa et j'ai grandi avec ma mère. Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère m'avait toujours dit qu'il était mort. Tout allait bien jusqu'il y a 4 mois, quand elle a attrapé une pneumonie. Quelques semaines plus tard, elle était dead. À ce moment-là, elle m'a confié que mon père m'avait offert un cadeau. Ce big yak tout droit sorti du McDo. Le seul signe par lequel je pourrais le reconnaître, ce serait le rhododendron rouge qui est tatoué sur le flanc. Depuis ce moment-là, j'ai cherché à quitter cette ville. Au départ, je voulais aller à Hong Kong, mais je me suis un peu perdu. Quand tu es arrivé, j'étais un peu à court de blé, et tu étais une très bonne opportunité pour moi. Alors, nous sommes partis, et pour moi, c'était une occasion d'aller au Népal. Et puis, Khan le triomphant a glissé et s'est complètement écrasé, transformé en compote de yak. Le hurlement qui l'a poussé m'a glacé le sang. C'était le seul souvenir de mes parents.
Je pensais que la descente serait plus simple, mais en fait non. Les provisions nous manquaient déjà depuis plusieurs jours. Heureusement, nous avions encore nos sacs de couchage. Il n'y avait pas de tempête, c'était déjà ça, mais la température était si froide que notre eau gelait instantanément. De plus, depuis quelques jours, j'avais d'horribles maux de tête. Imaginez qu'un énorme marteau frappe dans votre cerveau en permanence. Eh bien, c'était à peu près cette sensation. Quand j'avais dit ça au Godeil, il était resté un long moment silencieux, puis avait dit dans un murmure.
Le mal des montagnes!
Nous devons rejoindre le Népal le plus vite possible.
De plus, je sentais bien les douleurs de la faim. Plusieurs fois par jour, je m'écroulais et Ogodei devait me relever. Un jour, tandis que nous redescendions le col du Puma Banzingyang, sur sa face sud, je sentis que je ne pouvais plus avancer. Ogodei essaya de m'aider, mais soudain, je vis une grande porte dans la neige. Elle était gardée par deux gardes de l'armée russe, mais je n'y fis pas attention. Je me précipitais vers eux. Enfin, un abri où j'allais pouvoir me soigner. J'entendis vaguement les cris d'Ogodei derrière moi, mais je m'en fichais. Soudain, les deux gardes m'attrapèrent fermement et m'amenèrent à l'intérieur. Des centaines de personnes étaient agenouillées dans une espèce de neige brunâtre. Une grande voie ferrée traversait l'énorme camp. Alors, je réalisa que quelque chose clochait. Les gens là étaient maltraités par les gardes en habits rouges et devaient porter des grands morceaux de fer pour construire la voie ferrée. Alors, je compris dans un éclair d'effroi que j'étais dans un goulag. Un grand homme habillé en rouge arriva vers moi et me regarda d'un regard sévère. Puis, son visage s'éclaira d'un sourire et il dit à l'un des gardes « Celui-ci est parfait pour les mines. » Les gardes me soulevèrent avec force et malgré mes débattements, m'emmenèrent au loin, là où j'allais souffrir.
Le train avait quitté Mumbai tôt. J'avais pris ce billet sans trop réfléchir. J'avais juste, pour une fois, suivi mon instinct. J'étais maintenant livré à moi-même. Cette sensation d'instabilité me faisait étrangement du bien. Le train était lent, comme si lui-même hésitait à s'éloigner de Mumbai. Les paysages défilaient sous la brume fraîche du matin. J'avais traversé tant de villes dont je ne connaissais même pas le nom, mais chacune me laissait quelque chose. Les épices qui piquaient le nez, l'odeur brûlante du thé noir, sans oublier les cris lointains des vendeurs des marchés. C'était comme si chaque ville me racontait son histoire, un souvenir que je n'avais pas vécu, certes, mais que j'aimais recevoir. Arrivé à Gorakhpur, j'ai changé de train. Il allait moins vite, alors que moi je pensais plus fort. C'est là que j'ai pensé à Nila, celle que j'avais quittée à contre-cœur, celle avec qui j'avais eu le coup de foudre amical, celle avec qui les fous rires ne se comptaient plus, la seule qui me comprenait sans que j'aie à parler. Celle qui me regardait toujours avec douceur et tendresse, c'était ma sœur de cœur, celle qui me complétait. Elle me manquait terriblement. Je lui avais annoncé que je rentrerais dans un peu de temps, mais la vérité, c'est que je n'étais pas sûre de revenir. Un jour plus tard, je pris le bus pour mon dernier trajet jusqu'à Katmandou. Ce bus bruyant, bancal, et dans lequel la chaleur était épouvantable, traversait les vallées, les forêts et les champs, puis enfin les montagnes. À côté de moi était assis un homme plutôt mystérieux. Il n'était plus jeune, vêtu d'une simple tunique turquoise qui allait magnifiquement bien avec ses yeux bleus perçants. Nous n'avons pas discuté tout de suite, puis il se tourna doucement vers moi.
« Tu rentres chez toi ?»«
Je crois que je cherche où c'est chez moi. » Il avait alors souri. Pas un grand sourire, mais un sourire empathique. C'est là que j'avais commencé à parler, comme si je déballais un sac trop plein. Je parlais de mon père, de ce satané rôle de princesse qui ne m'allait pas, comme une robe trop serrée. J'avais aussi parlé de ma meilleure amie Nila que j'avais délaissée et cette université que j'avais fui, de ce verre qui ne me quittait plus depuis la fête de Loli et finalement de comment j'étais arrivée là, dans ce bus qui allait à Katmandou. Il me regarda. Le paysage était splendide. On aurait pu croire que la forêt par laquelle nous passions était irréelle, remplie de couleurs vives et d'arbres tropicaux. L'homme fixa ce paysage puis murmura.
Regarde ce magnifique paysage. Sans toutes les erreurs que tu estimes avoir commises dans ta vie, tu ne serais pas là à l'admirer. Sois reconnaissante des faux pas que tu as pu commettre sans le savoir. Ils t'amèneront toujours à quelque chose de merveilleux. Et cesse de vouloir satisfaire tes proches, car il serait pire de te perdre toi-même, ta propre voix, que d'en perdre en chemin.
C'est à ce moment précis que j'eus ce fameux déclic. Vous savez, ce déclic qui, après l'avoir eu, la vie n'a plus la même saveur. On la voit différemment. La fin du voyage se passa bien. J'avais dormi et fait un rêve spécial. Ce qui est certain, c'est qu'à mon arrivée à Katmandou, je savais ce que j'allais faire.
C'était la fin! Nous allions mourir.
Alors que nous avancions lentement vers Katmandou, Grigor avait commencé à courir dans tous les sens et à gesticuler. J'avais d'abord cru qu'il essayait d'être drôle, puis j'avais compris qu'il avait des hallucinations en lien avec son mal des montagnes, un syndrome de la haute altitude très dangereux. J'avais essayé de le retenir, puis en désespoir de cause, je l'avais attrapé par la taille, puis assommé pour qu'il arrête de se rebeller. Mais son poids me ralentissait considérablement. De plus, de gros nuages noirs s'accumulaient dans le ciel, indiquant une tempête proche. Il ne fallut que quelques dizaines de minutes pour que le brouillard nous enveloppe. Alors j'ai commencé à paniquer. Seul, dans la tempête, avec quelqu'un en plus à portée, c'était mortel. J'allais me résoudre à abandonner Grigor dans la neige pour me mettre à l'abri quand tout à coup un miracle arriva.
Une fois arrivé à Katmandou, je me précipitais vers le yak de mon père. Oui, c'est de lui dont j'avais rêvé. Une impression constante me ramenait vers lui comme un aimant. Je ressentais quelque chose de si fort qu'à présent, je ne pouvais plus l'ignorer. Je devais absolument l'envoyer dans les montagnes pour quelqu'un qui en avait besoin en ce moment. Pour qui et où, je ne le savais toujours pas, mais je faisais confiance à la nature et au yak. Je l'ai donc envoyé avec un ornement spécial, décoré d'un collier de fleurs de rhododendron rouge, la fleur du Népal. Une fois le yak en route, j'avais chanté pour lui, et tout à coup, la nature et moi faisons qu'un. À ce moment précis, le yak, moi, mon chant et les montagnes étions désormais un mélange. Nous étions unis. Aravaritu evate, aravaritu evate, aravaritu evate la tea. Anamana kulera we, anamana kulera, anamana kulera we akala. Anamana kulera we akala haidu aye. Anamana kulera we.
Un yak noir sorti du brouillard se dirigea vers nous. Il était orné d'une couverture rouge ainsi que d'un sac. Sans prendre le temps de réfléchir, je lui caressa le museau comme je l'avais fait tant de fois avec Khan le triomphant. Et il se laissa faire. Je hissai alors Grigor sur son dos et nous commençâmes à avancer pour trouver un abri. Des petits flocons commençaient à voltiger dans l'air. Soudain, je vis une ouverture béante dans la montagne. Je me dépêchai de m'y abriter avec ce mystérieux yak. Une fois que j'eus installé Grigor sur le sol de la grotte, je regardai ce qu'il y avait à l'intérieur du sac. Quelques vivres, de la bouse de yak pour le feu, assez pour aller jusqu'à Katmandou. Rassuré, je m'endormis dans la grotte. Mais juste avant de sombrer dans le sommeil, je vérifiai quelque chose. Sur le flanc, caché sous les poils, le tatouage d'un rhododendron rouge.
Enfin, après tous ces mois de voyage, l'arrivée était proche. Les grandes portes de Katmandou se dressaient devant nous, de toute leur hauteur. La plus grande ville de l'Himalaya était enfin devant nous, notre objectif ultime. Durant la semaine de marche précédente, la santé de Grigor s'était beaucoup améliorée, et il réussissait maintenant à marcher, voire à courir. Ici, j'aurais peut-être la chance de commencer une nouvelle vie, mais une chose me chiffonnait, le yak était aussi noir que fut Khan, le triomphant. Pas très triomphant d'ailleurs, sur la fin, pas son âme. Aussitôt que nous fûmes entrés dans la ville, les gens se sont mis à nous regarder, nous pointer du doigt en murmurant des paroles dans une langue inconnue. Avant que je n'aie pu me rendre compte de ce qui s'est passé, un groupe de gardes fondit sur nous. Vu que je savais parler un peu le népalais, grâce au sherpa que j'ai côtoyé dans la montagne, je leur demandais ce qui se passait. Mais vu que je ne parlais pas si bien, je n'ai pas compris ce qu'il m'a répondu, à part le mot yak et le mot prison.
Qu'est-ce qu'ils ont dit ?
Me demanda Grigor. Pour ne pas perdre la face, j'ai répondu : ils veulent juste nous donner des donuts népalais. Les gardes nous ont amenés dans la salle d'un immense palais, au mur recouvert de marbre. Soudain, une fille surgit et parla en népalais. Alors, les gardes se sont éloignés, et un homme en tunique jaune est venu vers nous et nous a dit dans un tibétain parfait :
Nous nous excusons pour cette méprise. Je vais vous conduire à votre chambre.
Je jetai un dernier regard vers la fille qui m'avait manifestement sauvé. Mais elle avait disparu. Sur le chemin, Grigor me demanda.
Du coup, ils sont où les donuts népalais ?
Nous avions compris que nous étions au palais du roi du Népal et que le yak qu'on avait trouvé était en fait le yak royal. Ils avaient donc cru qu'on l'avait volé et voulaient nous emprisonner. Grigor avait réussi à obtenir un entretien avec le roi pour montrer le film que lui avait donné son père et pour lequel on avait fait tout ce chemin. Une question restait encore dans mon esprit. Comment un yak royal était-il arrivé dans les montagnes de l'Himalaya, au milieu de nulle part ? À ce moment-là, je sentis après une présence derrière moi. Je fis volte-face et vis la fille qui avait parlé au garde de la veille.
Je pense que nous devons parler.
Pourquoi voudrais-tu me parler à moi, simple Sherpa ?
J'ai des questions à te poser.
Non, c'est moi qui ai des questions à te poser. Pourquoi, quand on était tranquille dans la montagne, de yak royal à spawn ?
Je l'ai envoyé. Et toi, comment as-tu fait pour l'apprivoiser ? Cette Dri, Zhang Vai, la conquérante, est très difficile à approcher.
J'avais un yak quand j'habitais au Tibet, crâne de triomphant. Mais il est en compote au fond d'un ravin. Il était noir avec...
Un tatouage en forme de rhododendron.
La fille partit alors en courant en direction de la salle du trône.
J'arrivais dans la salle du trône du roi du Népal, finement ouvragée de motifs colorés. En face de moi, sur une chaise en bois, se tenait le souverain de ce pays. Je m'agenouillais respectueusement sur le sol.
« Lève-toi ! Que viens-tu faire dans les lointaines contrées népalaises, jeune ambassadeur de l'URSS ?»«
Je ne suis pas un ambassadeur. Mon père était un général de l'armée rouge, mais les dernières années de sa vie ont été consacrées à la lutte contre l'Union soviétique. Au moment de sa mort, il m'a confié un paquet qu'il m'a dit de faire transmettre aux Américains, vos alliés. » Je sortis le paquet de mon sac, dans lequel il était resté depuis les longs mois de voyage, depuis Yakoutsk. Le roi resta un instant songeur, puis...
Oui, je me souviens de ce général rebelle de l'URSS. C'est donc ce colis que j'attendais depuis toutes ces années.
Le roi du Népal le prit et le déballa silencieusement. À l'intérieur, une bobine de microfilm. Il ordonna qu'on lui amène un projecteur... Et, une fois qu'il fut arrivé, il inséra le film dedans. La machine se mit en route, et soudain, une personne entra. Le roi arrêta immédiatement l'enregistrement. Une fille, celle qui avait parlé au garde la veille, était entrée.
« Oh, papa ! L'étranger est dans la cour et il prétend qu'il avait un yak royal. C'est faux, hein ? Je suis la seule !»
Le roi resta silencieux quelques secondes.
« Papa, dis-moi la vérité !»
Le roi se racla la gorge.
Alors disons qu'il y a quelques années, j'ai fait un petit voyage au Tibet, puis je suis tombé amoureux d'une femme. J'y suis resté 4 mois. Madri a donné naissance à des jumeaux. Au moment de mon départ, je lui ai offert un des 2 bébés yaks. Et je lui ai proposé de le donner à ma descendance sacrée, pour que je puisse la reconnaître le jour voulu.
Le roi s'arrêta. Sa fille eut un sourire éclatant.
J'ai un...
« Mais non, ma fille, ce n'est qu'un bâtard. C'est toi, ma vraie fille, l'héritière de mon trône, Tsering Narayan Shah. »
À l'annonce que Gedei le Généreux était en fait mon demi-frère, je fus bien surprise et sous le choc en façade. Mais, profondément ou inconsciemment, je m'y attendais. Je ne pourrais dire que je l'avais prédit, mais je savais que quelque chose de ce genre allait ressurgir du passé et cesser d'être un secret. Je pensais aussi que mon père attendait ce moment. Ce moment où elle devrait tout expliquer. Je parlai d'abord à Ogedei d'une proposition. Je lui laissai le rôle de princesse, enfin de prince, et sans surprise, il fut bien sûr partant. Il me dit qu'un jour lui vint à l'idée folle d'être prince, mais à cette époque, cela n'était qu'un rêve, et qu'aujourd'hui, cela se réalisait. Par la suite, mon père n'osa pas me regarder. Il craignait ma réaction, je le sentais. Alors je lui dis tout. Je lui dis qu'avec ce rôle de princesse, je ne me sentais pas à ma place. Je lui dis que je n'étais pas rentrée de Mumbai à cause d'une dispute avec Nila, mais parce que j'étais perdue. Je lui dis que je ne prenais pas mal le fait que Gedei le Généreux soit mon demi-frère, au contraire, j'étais heureuse. Je lui dis même que le fait qu'il soit mon demi-frère me soulageait. C'était un pilier, désormais. Il pourrait prendre ce rôle de prince et tout irait enfin mieux. Et je finis par lui dire que, oui, je ne m'étais pas vraiment confiée à lui. Non par sa faute, mais plutôt du fait que je craignais d'être incomprise. J'étais trop perdue pour pouvoir m'expliquer. mais que, maintenant, je pouvais me confier à lui, car à présent, je n'étais plus perdue. Je compris enfin que depuis tant d'années, j'étais en quête de la beauté de ce monde, et qu'en réalité, elle se trouvait partout. La seule complexité était de la dénicher. Et je finis par lui dire que, maintenant, j'étais en paix avec moi-même, que je pouvais enfin cesser de survivre, mais de vivre et de profiter de ce beau monde qui s'ouvrait à chacun de nous. Dans son regard, pour la première fois, il eut une sensibilité profonde à ce que je venais de lui raconter. Je sentis une énorme compassion comme s'il avait vécu la même chose auparavant. Je vis aussi ses traits durs du visage laisser place à un visage émotif et sincère. Cela nous émut tous deux tant que nous nous tenions les mains, grand signe d'affection pour nous.
J'étais assis dans le jardin, la tête dans les mains. Tout était allé si vite. En quelques heures, j'étais passé de simple sherpa en quête d'une vie meilleure à prince, puis à sale bâtard du roi. Je n'avais pas pu m'expliquer avec celui qui était censé être mon père, car il ne m'avait pas accordé audience. Soudain, un homme avec une couronne d'or arriva et s'assit à côté de moi.
Bon. Je me reconnais un peu à travers toi, comme ta gourmandise très marquée et le fait que tu aies réussi à traverser l'Himalaya en transportant en plus un étranger. Je pense que tu ferais un très mauvais prince, mais ma fille, Tsering Narayansha, concède de te confier le trône. Elle en a décidé ainsi. J'espère que tu seras à la hauteur.
Mais je prends des cours d'économie.
Force au Népal.
Nous étions tous rassemblés dans la grande salle. Ogodei était devenu prince du Népal. Son avenir était assuré. Quant à Tsering, elle avait échappé à son avenir de princesse. Et la plus grande surprise, c'est que le roi m'avait accepté dans son palais grâce à ses enfants. Enfin, nous pouvions regarder ce pourquoi tout avait commencé, le microfilm. Le roi l'inséra dans la machine qui commença à vrombir. Enfin, la lumière se projeta sur le mur du fond. L'image floue d'une pièce austère apparut, puis devint plus nette. Il s'agissait d'un quartier général au Kremlin, au milieu de la pièce. Une femme aux cheveux bruns coupés au carré et au visage grave faisait les 100 pas. À côté d'elle, sur un porte-manteau, était posée une grande veste militaire. Au début, comme tout le monde autour de moi, je ne comprenais pas ce qui se jouait devant mes yeux. Que faisait une femme au milieu d'une réunion militaire? Puis je me dis que c'était peut-être la femme de Staline, mais personne ne l'avait jamais vue. Soudain, le film changea. Nous étions maintenant sur une plage privée de la Côte d'Azur, qui avait dû coûter une fortune. Le soleil brillait et les hommes en costume apportaient des boissons et des amuse-bouches. Des transats étaient disposés partout sur le sable et sur l'un d'eux, je vis un homme qui me sembla familier. Je me rendis alors compte que c'était mon père. Il jeta un coup d'œil à la caméra avant de se plonger dans un journal. Au premier plan, face à la caméra, se tenait le grand, le majestueux Staline avec son uniforme et sa moustache. Il jeta un bref regard autour de lui et commença à se déshabiller. Il enleva sa grande veste et je vis que quelque chose clochait. Il retira sa fausse moustache et sa perruque, et soudain, je la reconnus. Au centre de l'image se tenait la femme que nous avions vue dans la première vidéo. Staline était en réalité une femme qui, de plus, ne respectait pas les valeurs communistes, allant se payer des vacances de luxe à Saint-Tropez. Autour de moi, tout le monde était choqué, à part le roi du Népal qui regardait le film avec un petit air amusé.
« Papa, tu n'es pas surpris ?»
Le roi regarda sa fille avec un petit air coupable et gloussa.
« J'ai déjà vu ce film. » En fait, c'est moi qui l'ai filmé. J'ai, comme qui dirait, eu une petite aventure avec cette femme, qui gouverne d'ailleurs l'URSS d'une main de fer. Mais son temps est révolu. Il est temps de faire tomber l'URSS.